13h.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Tout à l'heure, à partir de 13h30 TU.
RFI.
Il est midi en temps universel. Vous écoutez Radio France Internationale. Et c'est l'heure du Grand Journal International. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Clotilde Dumais, bonjour à toutes et à tous.
À la une, les discussions entre les États-Unis et l'Iran à Oman.
Coup d'envoi des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Ces discussions sont les premières depuis les frappes sur les sites nucléaires iraniens menées en juin par les États-Unis lors de la guerre qui a duré 12 jours. Nous verrons dès le début de ce journal les positions de Washington et de Téhéran sur ce dossier délicat du nucléaire iranien.
À suivre aussi ce reportage en Haïti.
Le mandat du Conseil présidentiel de transition arrive à son terme. Demain, après 22 mois de mandat et un constat d'échec cuisant, pas d'élection, une insécurité toujours plus grande et une bataille politique qui s'annonce pour prendre la suite.
Aux États-Unis, il y a moins de touristes étrangers ces derniers temps.
Le tourisme international enregistre une baisse ininterrompue depuis 8 mois. Les raisons, les prix des billets d'avion trop élevés et surtout la politique de Donald Trump qui effraie les étrangers.
Et puis en France, l'affaire Betarame est une deuxième mise en examen.
Ce dossier Betarame regroupe déjà près de 250 plaintes et là, un religieux d'une soixantaine d'années a été mis en examen pour viol par personne ayant autorité.
RFI Midi.
Mais d'abord, direction la Russie. Un haut responsable militaire a été blessé par des tirs et hospitalisé à Moscou.
Et le général Vladimir Alexeyev, haut gradé du service de renseignement militaire russe, a été grièvement blessé par balle. Ça s'est passé ce matin. L'assaillant a réussi à prendre la fuite. Le militaire, âgé de 64 ans, est le premier adjoint du général qui dirige le renseignement militaire russe, le GRU. Le chef de la diplomatie russe impute ses tirs à l'Ukraine. Sergueï Lavrov accuse Kiev de vouloir faire ainsi dérailler les négociations en cours sur une fin de conflit en Ukraine.
Cet acte terroriste a une fois de plus confirmé la provocation constante du régime de Zelensky, le président ukrainien, visant à perturber le processus de négociation. Il a également démontré sa détermination à tout faire pour convaincre ses alliés occidentaux de maintenir la pression sur les États-Unis afin de les empêcher de parvenir à un règlement équitable.
Sergueï Lavrov, le chef de la diplomatie russe, et juste avant cette tentative d'assassinat, le Kremlin avait annoncé que les négociations entre Moscou et Kiev qui se sont déroulées à Abu Dhabi en présence des Américains pour tenter de trouver une issue au conflit ont été très complexes mais très constructives.
Dans l'actualité également, les discussions entre l'Iran et les États-Unis à Oman, elles ont commencé, Olivier, ce matin.
C'est à Mascate, capitale du sultanat d'Oman, que se sont retrouvés ce matin les émissaires iraniens et américains pour des discussions inédites. Le chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi et Steve Witkoff, envoyé spécial de Donald Trump, réunis alors que les États-Unis menacent la République islamique d'une opération militaire. Nicolas Falaise, bonjour.
Bonjour.
Dans leur dernière déclaration, les dirigeants iraniens refusaient de négocier leurs missiles ou leur influence auprès de groupes armés dans la région. En revanche, Téhéran a accepté de parler de son programme nucléaire avec les États-Unis.
Ah oui, le programme nucléaire de l'Iran, 2 décennies de tensions internationales. Téhéran assure ne pas vouloir la bombe atomique, mais ses progrès nucléaires n'ont rien de commun avec un programme civil destiné à produire de l'électricité. 2 décennies de bras de fer et de négociations pour empêcher l'Iran de devenir la 10e puissance nucléaire au monde. Un accord en 2015 pour garantir le caractère civil de ce programme. Accord déchiré 3 ans plus tard par un certain Donald Trump.
Alors que ces discussions se déroulent en ce moment même à ce sujet, que sait-on du programme nucléaire de l'Iran ?
Il a été frappé en juin dernier par des bombes israéliennes et américaines qui l'ont fortement endommagé. Il est probablement à l'arrêt ou très ralenti et dans tous les cas retardé. Mais difficile d'y voir clair, car depuis cette guerre de juin dernier, l'Iran refuse l'accès de ses sites nucléaires aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Impossible notamment de savoir ce que sont devenus les 400 kilos d'uranium fortement enrichi que l'Iran avait produit et stocké. On parle là du matériau pouvant entrer dans la composition d'une bombe atomique.
Alors il y a toujours la menace actuelle d'une intervention armée américaine. Que demandent les États-Unis à l'Iran ?
zéro enrichissement d'uranium, alors que l'Iran, depuis des années, brandit son droit à l'enrichissement, en principe garanti par le TNP, le traité de non-prolifération nucléaire, dans le cadre d'un programme civil. Si la négociation entamée aujourd'hui avance, si un compromis est possible, il devra aussi concerner le fameux stock d'uranium enrichi. Pourrait-il être transféré dans un pays tiers pour garantir qu'il ne servira pas à fabriquer une bombe?
Nicolas Falaise du service international de RFI.
Et on reviendra sur ces négociations dans une dizaine de minutes avec Kevan Gafaïti, enseignant à Sciences Po Paris, président et fondateur de l'Institut des Relations Internationales et de Géopolitique. Au Pakistan, un attentat suicide a fait plus de 30 morts et près de 170 blessés dans une mosquée chiite.
Un attentat pendant les prières de ce vendredi dans une mosquée capitale du Pakistan, très meurtrier. Le bilan est très lourd et encore provisoire. Vous l'avez dit, au moins 31 morts et 169 blessés. L'explosion s'est produite alors que les mosquées du pays étaient bondées. L'explosion est due à un attentat suicide. L'assaillant a été bloqué à l'entrée et a déclenché ses engins explosifs.
Direction Haïti à présent, J-1 avant le saut dans l'inconnu politique.
Demain, samedi, le mandat du Conseil présidentiel de transition, le CPT, arrive à son terme après 22 mois de mandat et un constat d'échec cuisant. Pas d'élection et toujours une insécurité importante. Comment ces quasi 2 ans de mandat ont-ils été vécus? Qu'en retiendront les habitants de Port-au-Prince? Une correspondance de Peterson Luxama.
À l'heure du bilan, à Port-au-Prince, les réactions ne manquent pas. Pour Misuel Timothée, croisé à Pétionville, l'échec de cette structure est cuisant.
2 ans après.
Il est clair que 2 ans après, c'est un échec total, un échec absolu. La situation s'est aggravée. Avant, il y avait encore des espaces, des quartiers où la population habitait. Aujourd'hui, ces quartiers sont perdus, contrôlés par les gangs. Je pense qu'à 98 ou 99%, le CPT n'a rien fait de sérieux pour le pays.
Gaspillage des fonds publics, corruption, indifférence à l'égard de la population, pour Johnny Batisma, voilà ce qui caractérise ces 2 ans du CPT à la tête du pays.
CPT, c'est échec total.
Le CPT, c'est l'échec total, l'échec sur toute la ligne. D'abord, sur le plan administratif, c'est de la gabegie totale. Plusieurs membres du Conseil présidentiel de transition sont d'ailleurs cités dans des dossiers louches de corruption. On avait espéré qu'ils dépasseraient les clivages et qu'ils penseraient vraiment au pays, mais au final, c'est l'échec total.
En cette fin de règne, le sentiment dominant à Port-au-Prince est celui d'une transition manquée dans un pays toujours plongé dans l'incertitude. D'autres citoyens, à l'image de Betson, disent attendre un changement après le CPT.
C'est beau changement.
Le changement, c'est tout le temps que nous y pensons, que nous en rêvons. Nous voulons l'organisation des élections, nous voulons de la sécurité, nous voulons du changement. C'est ce que nous attendons et rien de plus.
Un changement qui semble n'être pas pour demain, car à la veille du 7 février, le flou persiste. Le pays reste dans l'incertitude. Personne ne sait qui dirigera Haïti après cette date. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Peterson Luxama qu'on retrouvera dans un peu moins d'une heure dans une émission spéciale à partir de 13h TU. Signature aujourd'hui entre l'Australie et l'Indonésie d'un traité de sécurité.
Un traité censé renforcer les coopérations militaires entre les deux pays. À Jakarta, le premier ministre australien Anthony Albanese et le président indonésien Prabowo Subianto saluent une relation plus forte que jamais. Mais Carlotta Morteo, derrière l'affichage diplomatique, les deux pays avancent avec des intérêts et des stratégies de sécurité très différent.
Oui, qu'on ne s'y trompe pas, on est loin d'un accord sécuritaire contraignant. C'est d'abord un texte pour se rassurer entre voisins, un pacte à haute valeur politique et faible portée stratégique selon de nombreux observateurs de la région. Concrètement, au-delà de la poursuite des exercices militaires conjoints déjà existants, le traité prévoit que l'armée australienne puisse accéder de manière non permanente à des installations militaires dans l'archipel indonésien. En échange, l'accord prévoit l'intégration d'un responsable militaire indonésien au sein des forces armées australiennes. Pour le reste, Canberra et Jakarta s'engagent à coopérer plus étroitement, à se consulter plus régulièrement, un langage flou qui a le mérite de restaurer dialogue et confiance entre deux pays très différents. En effet, face à la Chine, l'Australie, étroitement liée aux États-Unis, cherche surtout à se prémunir contre la politique étrangère non alignée de l'Indonésie qu'elle a du mal à lire et à anticiper. Jakarta, en effet, toujours en quête d'autonomie, évite toute alliance militaire exclusive pour ne pas froisser Pékin, son premier partenaire commercial. Le président président indonésien Prabowo Subianto, qui dit vouloir être l'ami de tous, multiplie donc les partenariats militaires avec les États-Unis, l'Inde, le Japon, la Russie, les Émirats, la France et aujourd'hui l'Australie.
Merci Carlotta Morteo.
7h09 à Washington, aux États-Unis. Olivier, le tourisme international est en net recul.
Selon des chiffres officiels, le nombre de visiteurs étrangers a chuté de plus de 4% en 2025, une première depuis la pandémie de Covid-19, alors que dans le même temps, les voyages internationaux progressent, eux, de 4% également dans le reste du monde. En cause, la politique menée par Donald Trump depuis le début de son second mandat. Explication Anne Verdaguet.
Les grands espaces et une certaine idée du rêve américain n'attirent plus les visiteurs. Et pour cause, depuis le début du second mandat de Donald Trump, les contrôles aux frontières ont été renforcés, les fouilles de téléphones et d'ordinateurs se multiplient, des visas sont suspendus et l'entrée interdite à des ressortissants de nombreux pays. Un climat qui décourage les voyageurs, les conséquences économiques sont lourdes, 11 millions de touristes en moins, c'est près de 50 milliards de dollars de pertes, selon les professionnels du secteur. Les hôtels souffrent, les compagnies aériennes aussi, notamment sur les liaisons transatlantiques. Les Canadiens, premiers visiteurs étrangers, sont particulièrement nombreux à renoncer, mais la baisse concerne aussi l'Europe et le Moyen-Orient. Certains voyageurs évoquent ouvertement un malaise politique et sécuritaire. Le secteur touristique américain espère désormais un rebond avec la Coupe du monde de foot 2026, organisée en partie dans le pays. Mais les experts sont plus pessimistes. L'image des États-Unis à l'international pourrait laisser des traces sur le long terme.
Précision d'Enver Daguet. En France, un an après la mise au grand jour du scandale de l'école catholique Bétarame, un religieux vient d'être mis en examen.
Oui, ce dossier Bétarame regroupe déjà près de 250 plaintes d'anciens élèves dans le sud-ouest du pays. Et là, un religieux d'une soixantaine d'années a été mis en examen pour viol par personne ayant autorité. Alors Marie Casadebé, il ne s'agit que de la seconde inculpation dans cette affaire, malgré l'ampleur du nombre de plaintes.
Les premières plaintes dans cette affaire Bétarame remontent à plus de 2 ans, mais ce religieux n'avait jusque-là jamais été inquiété par la justice. Il est désormais mis en examen, accusé de viol par un ancien élève de l'école. Aujourd'hui âgé de 45 ans, l'unique agression que ce dernier dénonce aurait eu lieu entre 1993 et 1996. Seules 2 autres plaintes ont déjà donné lieu à une mise en examen. Elles visent toutes les deux un ancien surveillant accusé de viol et d'agression sexuelle sur mineurs. La grande majorité des autres tombent sous le coup de la prescription. Au total, 15 prêtres et 4 laïcs ont été mis en cause pour des faits commis entre la fin des années 50 et le début des années 2000. La plupart de ces personnes sont décédées et 2 accusés placés en garde à vue ont été relâchés. Les accusations portées contre ces accusés étaient trop anciennes.
Merci Marie Casadebé pour toutes ces précisions concernant cette affaire Bétarame.
Toujours en France, l'actualité politique, l'élection présidentielle de 2027 qui est déjà dans tous les esprits.
Et alors qu'un nouveau candidat pour 2027 pour cette élection présidentielle, Jérôme Guedj s'est déclaré à gauche hier. La droite, elle, n'en est pas moins embouteillée. Et de ce côté de l'échiquier politique, on compte déjà de très nombreux candidats déclarés ou pressentis. Raphaël Delvolvé, arrivé en ordre dispersé, risque de poser un gros problème.
Oui, le risque, c'est tout bonnement d'être absent du second tour. Et à ce stade, ils sont au moins 8 à vouloir se lancer. Édouard Philippe est à ce jour le seul déclaré, mais l'ancien Premier ministre, longtemps favori, voit sa cote dangereusement baisser dans les sondages. Une partie de l'explication, ce sont ses concurrents, Bruno Retailleau, ex-ministre de l'Intérieur, un temps en vogue, et parmi les plus sérieux, mais lui-même, au sein de sa formation, Les Républicains, fait face à d'autres prétendants, Laurent Wauquiez, Xavier Bertrand, David Lisnard, et même Michel Barnier. La liste est déjà longue, mais pas terminée, car Gérald Darmanin, lui non plus, ne cache pas ses intentions. Il fait d'ailleurs partie de ceux demandant une primaire pour faire émerger un candidat unique dans cet espace politique dans lequel Gabriel Attal, plus au centre, mais lui aussi, probable candidat, peut être inclus. Bref, un paysage saturé à droite comme à gauche et dans lequel, pour le moment, n'émerge que le Rassemblement national à l'extrême droite, annoncé au second tour, que ce soit avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella.
Merci Raphaël Delvolvé.
Et puis concernant l'environnement, Olivier, gros plan sur le méthane et ses effets néfastes concernant le dérèglement climatique.
Il y avait une énigme scientifique, elle vient d'être élucidée au début des années 2020 pendant l'épidémie de Covid et les confinements. La concentration en méthane a brusquement augmenté dans l'atmosphère. Le méthane est un gaz à effet de serre particulièrement redoutable pour le réchauffement climatique et les scientifiques ne savaient pas expliquer cette augmentation. Dans une étude publiée dans le journal Science, ils ont trouvé une explication. Jeanne Richard.
Entre 2020 et 2023, les concentrations de méthane dans l'atmosphère ont connu un pic. Ce gaz est surtout relargué par l'industrie des énergies fossiles, les transports, les déchets, les zones humides et l'agriculture intensive. C'est aussi un puissant gaz à effet de serre, responsable d'un quart du réchauffement climatique actuel. Pourtant, à cette époque, en pleine pandémie de Covid-19, l'économie mondiale est à l'arrêt, les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants dus aux activités humaines aussi. Alors comment expliquer cette brusque augmentation? Selon les chercheurs, c'est parce que parmi les polluants que nous avons moins relargués à cette époque, il y a les fumées des pots d'échappement des voitures et des moteurs d'avion, à l'arrêt pendant les confinements. Ces fumées contiennent des gaz néfastes pour la santé, mais aussi capables de casser les molécules de méthane. C'est paradoxal. Quand on diminue la pollution, on favoriserait donc le réchauffement climatique? Non. Ce qui favorise le changement climatique, ce sont bien nos émissions de méthane. Il faut donc redoubler d'efforts dans la lutte contre ces émissions et contre la pollution.
Et c'est pas vraiment gagné cette lutte. La suite d'RFI, midi avec vous, hein, Clotilde Dumais maintenant.
Merci Olivier Charman, on passe au sport. Bonjour Thomas de Saint-Léger.
Bonjour Clotilde.
Et donc jour J à Milan, coup d'envoi officiel, hein, ça y est, des 25e Jeux Olympiques d'hiver.
Encore une merveilleuse journée. Une seconde attention, je vous prie.
Vous écoutez HDR.
Radio HDR.
C'est sur le 99.1 FM. Radio HDR, le mix de toutes les cultures.
Le mix des cultures.
C'est sur le 99.1 FM.
She's the one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. She's the one for me. Her heels are clicking as she walks by. The dress of pink sure fills the eye. Hands are better just to look inside. She's a whistle bait. She's the one for me, she's a whistle bait. Whistle bait. Whistle bait. She's the one for me.
Corruption.
C'est sur le 99.1.
All I need is that beat.
Listening HDR.
Le mix des plus durs.
C'est toujours Alexandre qui voulez-vous que ce soit?
HDR. Le mix des cultures.
HDR The Mix 99.1.
Si, si, 6, 10, c'est Crumb, c'est hey, le Queen's Prix, easy, je vérifie les petites billes de Hustler qui imitent ma technique dealer.
HDR 99.1.
Come on now, shit.
HDR le mix.
Sometimes it appears unclear. Say certain girl are real animal here. But you better steer and share your comments with yourself.
991.
HDR, 24h sur 24, le mix tout qu'il tire.
Radio HDR.fr.